Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Assieds-toi, il s'assoit en face d'elle. Elle lui dit, je t'ai fait venir parce que je suis très triste et déçu. Tu es devenu comme les autres, un criminel, sans amis, et tu fais des choses terribles. Il lui dit, attristé, ne me grondez pas comme ça, ça me fait mal. Elle lui dit, tu es entré dans leur monde, tu es à leur service. Et où est ton ami? La honte, elle lui demande, qu'en as-tu fait? Tu as fait un pacte avec le diable. Tu ne seras plus jamais comme avant. Tu as donné ta pureté au diable. Tu as trahi ton ami et donné tes services au diable. Tu as honte. Il a honte, oui. Il sait qu'elle dit vrai. Il a les larmes aux yeux, se lève d'un coup et lui crie, au diable, pense à ce que tu as fait à ton ami. Il lui crie, non, et quitte la pièce. Il court dans cette maison. Il ne sait pas où il va. Il court. Puis, il s'arrête, essoufflé, en pleurs. Se retrouve par hasard dans les rues où Mathieu habitait avec sa mère. Il pleure, il a honte. Il passe devant l'immeuble. entre dans l'allée. Elle est restée la même. Il y a toujours le nom servant sur la boîte aux lettres. Il monte. Arrivé à la porte de l'appartement, peut-être que derrière la porte se trouve Mathieu. Mathieu, qui est sa rédemption, il suffirait peut-être qu'il somme pour que la porte s'ouvre et qu'il soit pardonné, que ce soit fait. Mais non, il n'ose pas. Peut-être parce qu'il ne se sent pas. Assez fort pour le faire. Pas assez pur pour recevoir cette grâce. Il doit continuer à être puni. Alors, il descend les escaliers. Il sort de l'immeuble. Que non, il ne l'a pas oublié. Et qui sait ce qu'il fera pour être lavé de son crime. Mais ce n'est pas tout à fait le temps. Le temps approche, oui, il approche. Et peut-être qu'il osera sonner après à cette porte. Le temps passe. Il n'a plus été chez Madame Poncet. Madame Poncet le regrette, mais ne regrette pas ce qu'elle a dit. Il semble avoir oublié son ami et toutes ses questions. Il travaille beaucoup. Le monde continue à se dégrader. Il y a de plus en plus de misère, de maladies. Beaucoup de maladies reviennent, telles le choléra, le manque d'hygiène, le manque de nutrition, rendent les corps fragiles. Des émeutes, des guerres se créent. Le gouvernement ne peut plus rien contre la pauvreté. Ils ont donné les pleins pouvoirs à des groupes très puissants qui font la pluie et le beau temps. Ils désembauchent d'un côté pour embaucher de l'autre. Le monde leur appartient. Et appartient à ses nouveaux maîtres. Ce qui compte pour eux, c'est leur profit. C'est la mondialisation. Tous se sentent citoyens du monde, c'est-à-dire libres comme l'air. Si le pays où ils sont et ne leur plaît pas, à une crise, crise ou se dégrade, ou leur demande trop d'impôts, eh bien, ils s'en vont, changent de pays, de nationalité, d'attache, ils n'en ont pas. Et en s'en allant, ils emmènent le travail, parce qu'ils emmènent avec eux leurs entreprises. Leurs amis sont comme eux, de nulle part, ou plutôt du monde de l'argent. Alexis est le monde où il vit est comme ça, lui non. Mais ceux qui l'entourent croient qu'il est comme eux. Lui, Alexis, reste attaché à sa ville, son quartier, celui de son enfance, sa famille, ses souvenirs. Il est citoyen d'un coin de Paris. Beaucoup, surtout à l'étranger. C'est pour faire signer des contrats de recherche scientifique. Et puis avec son livre, il est très connu. Il est devenu l'aventurier du futur. Celui qui parcourt le monde et risque sa vie pour chercher des plantes et insectes, bactéries rares pour faire avancer la science. Il est connu et respecté. Malgré ses multiples travaux, il pense souvent à Madame Poncet et à ce qu'elle lui a dit. Oui, il pense souvent à elle. Les jours passent. Il s'éloigne de plus en plus de sa femme. Elle devient très coquette. Il va aux différentes soirées, mais reste pour la plupart du temps seul. De temps en temps, il voit Frédéric, seul ou avec Gilles. Il parle un peu avec eux. Puis, il part pour travailler. Il n'a rien.
Comment tu as trouvé Salim, hein? Franchement, hein? Et c'est libre. C'est libre, comment tu
es? Il voyage beaucoup, surtout dans les pays exotiques. Et ça lui permet de voir du monde. Florence ne s'aperçoit pas qu'il s'éloigne d'elle, parce qu'elle a beaucoup d'occupations, ses amis, invitations. Les beaux-parents pensent que le couple est très uni. Les parents d'Aletti voient qu'il n'est pas heureux, n'osent pas lui poser de questions. Aletti est très gentil avec eux.
Les Boris ne sont pas là, ce soir le ciel soit loué, ils me portent sur les mers.
À une soirée, chez les Francs Blancs, dans l'hôtel, les parents, avenue des Lascaux, près du parc Monceau, Alexis et sa femme sont invités, et les grands gens aussi. Ce n'est pas une soirée officielle, elle est pour les amis ou relations très intimes.
Albert, chéri, deux de tes épouses touffent en café.
Comme les grands gens ont fait affaire de très bonnes affaires au groupe Blanc, et que c'est Alexis qui a été l'exécuteur et le découvreur de la chose, le produit anticancéreux qui s'appelle Grand Jean Prudent. Donc, pour les remercier, on les invite à toutes les soirées, même les plus intimes.
Non, c'est l'ignorance que ça veut dire, c'est qu'il n'est pas...
Alexis est devenu une personnalité avec son livre où il raconte ses aventures en Inde. Le gouvernement indien a protesté, a dit que c'était du folklore pour tourisme. Alexis et sa femme arrivent chez les Francs Blancs, il est 22h.
Merci.
Il y a déjà du monde. Tout l'hôtel est illuminé.
Oui.
Un ami. Et même disposition que pour les autres soirées. Monsieur et Madame Franc Blanc les reçoivent sur leur marche de leurs escaliers. Merci d'être venu.
Il danse aussi bien que les autres, tu sais.
Une fois arrivé à l'étage, Alexis voit arriver à lui Judith. Elle lui dit : venez, parlez un peu de ce que vous faites. La femme d'Alexis lui dit : je vous te laisse. Elle s'éloigne. Judith lui dit : mais c'est votre femme, elle a besoin de monde. Florence va au buffet prendre une coupe de champagne. Lorsqu'elle tombe sur un homme grand, mince, fort, blond, le visage perçant, porte un smoking noir qui lui va très bien. Elle est surprise par cette apparition. Il lui dit : bonsoir. Elle lui dit : oui. Bonsoir. Il lui dit : il y a du monde, du très beau monde. Elle est éblouie, Marie-Reille, par ce jeune homme. Il fait tellement, disons, homme. Lui aussi semble éblouie par elle. Elle s'y fait danser Judith. Elle lui dit : j'ai besoin de personnes comme vous. Je suis sûr que vous arriverez à faire quelque chose plus tard. Si vous débarrassez de certains encombrements. Il lui dit : c'est ce que je vais faire. Et la soirée se continue.
Ne pense à rien. Tu es là. Je suis avec toi.
La semaine passe. La femme d'Alexis continue sa vie mondaine et sort beaucoup. Un soir, Alexis est seul au siège avec son beau-père. Ils sont dans le bureau du beau-père. Le beau-père range ses dossiers et les met dans le tiroir de son bureau. Étienne lui dit de faire attention. On cherche à vous voler vos projets. Eh bien, elle regarde et lui demande « Qui vous a dit ça ?» Étienne lui dit « Personne au courant de tout. Et qui m'a dit de vous mettre sous vos gardes. Et qui est cette personne ?» S'il lui répond « Judith. » Le beau-père lui dit « Que c'est elle. Elle sait qu'une personne est une de vos relations. » Elle cherche à vous prendre vos dossiers. C'est une personne de chez nous. Qui est-ce ? S'il lui dit, c'est très délicat et triste. J'aime mieux ne rien vous dire, mais vous devez faire attention. Elle bat haut ses épaules, lui dit, j'ai toujours mon arme sur moi. Je ne risque rien et je défendrai mes dossiers, sûrement. Ils sortent du bureau. Dans le couloir, il est sombre. Ils entendent du bruit. L'ascenseur qui s'est arrêté à l'étage. Et si son père pousse son père derrière une porte et lui dit « Chut !» Des pas dans le couloir. Il voit une forme noire. Ouvre la porte du bureau. Une ombre féminine. Vite, le beau-père se dégage et entre dans le bureau. Prend son revolver de sa poche, de sa veste et l'ombre s'est effondrée, la tête la première sur le bureau. Alexis accourt, éclaire. Les deux hommes accourent. C'est une femme qui est morte. Alexis la retourne. Ma fille, crie le père. J'ai tué ma fille. Il est effondré. Alexis lui dit, il le fallait. Il le fallait pour le bien de l'entreprise. Eh bien, le regard furieux lui demande « Pourquoi ?» Et s'il lui dit, en sortant, il sort de sa veste des photos et lui dit « Regardez, Judith me les a montrées, regardez. Elle était avec l'espion industriel le plus important du moment. » Que mon père regarde les photos. Il voit sa fille dans les rues avec l'homme, au lit, nu, dansant. Est effondré. Il lui demande, mais pourquoi a-t-elle fait ça? Il lui dit, elle voulait. C'est vivre avec son amant. Les dossiers de notre projet, elle les aurait donnés pour pouvoir vivre avec lui. Elle était très amoureuse de lui. Si vous ne l'aviez pas tué, elle vous aurait ruiné et déshonoré. Il vaut mieux une fin comme ça. On dira que c'est un accident. Le père est effondré, hébété. Il lui dit, j'ai tué ma fille. Et s'il lui dit, C'est pour le bien du groupe. Il fallait que vous le fassiez. Vous devez protéger le groupe. Vous étiez en légitime défense. Il fallait faire sacrifice, sacrifier votre fille pour lui. Le beau-père lui dit, « Et que vais-je faire maintenant ?»
Haïti ouvre les tiroirs du bureau, en sort une boîte.
Petite boîte en métal. La laisse. Albert prend la boîte, l'ouvre. Il y a dedans la plante aux feuilles blanches et dessus une ampoule avec une seringue. Le beau-père regarde la plante, prend l'ampoule et la seringue. Il coupe l'ampoule et la met dans la seringue, puis se pique le bras. Le poison entre dans le corps et tue les cellules. C'est très douloureux. Albert s'assoit à son bureau, à côté de sa fille, et il attend. Alexis, une fois chez lui, va à son bureau, prend le téléphone, allô, c'est fait, bien. Deux hommes sortent de voiture près du siège Grandjean. Ils entrent dans le siège. Ils ont les clés. Montent à l'étage. À pied, prenant les escaliers. Ils prennent les deux corps, les mettent hors du bureau. Nettoie le bureau. Sortent les corps. Ils qui sortent du siège, mettent les deux corps dans la voiture. Ils roulent dans les rues de Paris et sortent de la ville. Ils vont s'arrêter en pleine campagne. S'arrêter en pleine campagne. Mettre le corps sur le devant, sur le siège avant. Et mettre le feu à la voiture. Ils ont été prendre une autre voiture un peu plus loin. Dans la matinée, la police prévient Aurore de la découverte du corps de son mari. Brûlé dans une voiture, il était avec sa fille. Elle aussi est morte. Ils sont tous les deux effondrés. Les deux corps ont été carbonisés. Une semaine plus tard, après l'enterrement, la police a donné l'autorisation parce que la mort, d'après eux, était accidentelle. La voiture a pris feu à cause d'un défaut de fabrication. Le moteur était de mauvaise qualité. L'enterrement a lieu avec les membres de tout le groupe, Pontois, Franc-Blanc, Jeune Tour, Riquin, Grand-Jean, toute la direction des groupes. Puis, Madame Aurore Grand-Jean a décidé de se retirer dans son château de Bourgogne. Conseil d'administration, avec l'accord des Franc-Blancs, a nommé président du groupe Grand-Jean Alti Prudent. Les affaires doivent continuer. Dans son château en Bourgogne pour ne jamais revenir. Alexis, un après-midi, va dans la rue où se trouvaient les servants. Ému, il entre dans l'allée. Il monte les escaliers en tremblant. Arrivé devant la porte de l'appartement, il va pouvoir enfin savoir si Mathieu est là et lui demander pardon et pouvoir l'aider. Mais juste au moment où il va sonner, une pensée lui vient à l'esprit. On ne peut pas réparer un crime par un crime. On ne le peut pas. Alors, il descend les escaliers doucement. Sorti de l'immeuble en se disant j'ai trahi deux personnes. Lorsqu'un portail s'est ouvert, en face de la route, Alexis voit Boulou, tout triste, une épave. Alexis fait celui qui ne le voit pas. La voiture passe devant lui. Il voit Boulou, les larmes aux yeux. Alexis fait celui qui ne le voit pas. La voiture file, Boulou a disparu. Trahison. Alexis se sent bizarre. Il a honte et peur que l'on sache ce qu'il a fait. Il ne sait même pas pourquoi il a fait ça. Peut-être a-t-il peur de l'amitié de son ami. Une amitié qui aurait pu, d'après lui, être trop étouffante. Il a envie de pleurer et se dit que Boulou n'a pas mérité ça. Il lui a donné son amitié, il a eu confiance en lui. Que va-t-il devenir maintenant? Va-t-il guérir de cette peine? Va-t-il s'enfoncer dans sa solitude parce qu'il n'aura plus confiance aux autres à cause de lui? Alexis a mal. Il a mal. Martin lui demande, vous êtes satisfait de vos vacances, monsieur? Oui, merci. Tout d'un coup, il se sent pas bien. Il a envie de vomir. Il faut sévir. D'après moi, il n'y a qu'un coupable. Et le coupable, c'est Monsieur Sève. Mathieu est tout rouge. Grandjean continue et dit, je suis obligé d'être très sévère, vu la grande faute. Monsieur Sève, vous ne faites désormais plus partie de notre groupe et vous ne pourrez plus être embauché dans aucun groupe de la filiale du groupe Franc-Blanc.
C'est pas Monsieur Sève, c'est Monsieur Servant, c'était une erreur.
Je vous jure, Monsieur le Président, que je suis innocent. Monsieur Grandjean lui dit, vous êtes coupable. Vous étiez responsable de cette plante. Cela suffit. Vous allez vous en aller. Mathieu est tout blanc. Il se sent une grande injustice. Regarde son ami pour voir s'il ne veut pas faire quelque chose, dire quelque chose. Mais non, rien. Pas un geste. Pas un geste. Mathieu Penaud quitte le bureau. Le président dit, bon, vous aussi, vous pouvez vous en aller. Nous avons assez discuté là-dessus. Et il se retire. Jean dit, Alexis, vous restez. Alexis reste dans le bureau, les autres sortent. Mathieu est près de la porte, il a les jambes qui tremblent, il ne sait où aller, la tête vide. Les autres qui sortent du bureau le dépassent sans lui parler. Alors, de la porte. Vous y êtes enfin arrivé. C'est le président qui vient de dire ça. Et ça lui démontre qu'Alexis est avec lui. Mathieu comprend que c'était un coup monté et que son ami de toujours, celui qui lui a sauvé la vie, qui l'a aidé dans toutes les catastrophes, fait ce stratagème pour le mettre à la porte. Ça lui fait mal. Très mal. Très très mal. Il se sauve en courant.
Alexis est seul dans son bureau. Dans son bureau. Dans le bureau du siège Franc-Blanc, du bureau du président, il y a le président Judith et l'homme qui a séduit la femme d'Alexis. Judith dit, je te dis, ça va bien agi. Il sera un très bon président, il nous servira bien. Le plan était parfait. Je savais qu'elle allait être séduite par ce monsieur. Et ferait tout ce qu'il lui demande. Maurice Franc-Blanc lui demande, et pourquoi tout ça? Est-ce que son père n'aurait pas été, lui aussi, un bon président, son beau-père, je veux dire? Elle lui dit, Haïti est une personne sérieuse. Son beau-père est pur. Son beau-père est un homme d'affaires. Et un homme d'affaires pense à ses affaires. Lui, Haïti est un idéaliste. L'argent ne l'intéresse pas. Il ne risque pas de nous prendre des affaires, de prendre notre place. Il le pourrait peut-être. Il est intelligent, très intelligent. À Lyon, dans le quartier de Gerland, rue de Gerland, il y a des HLM, de vieux HLM, de 3 ou 4 étages, genre 1930, avec petit balcon à demi-cercle, porte de bois donnant sur la rue. Les HLM sont une cité HLM de plusieurs immeubles qui entourent une cour goudronnée avec des bancs de pierre, quelques arbres. La cour sert de parking et de lieu de rendez-vous où les jeunes de la cité, les gens qui habitent, sont des personnes âgées ou des gens en attente d'un autre logement. Parce que les logements ne sont pas très grands. Il n'y a pas de salle de bain, mais une minuscule salle d'eau. Les logements ne sont plus conformes à ce que souhaitent les gens. Mais ceux qui habitent depuis longtemps, et même y sont nés, il y en a qui sont là depuis plusieurs générations, s'y trouvent bien. L'endroit est un peu isolé, il y a peu de commerçants, mais ça forme un petit village où tout le monde se connaît, s'aime, se haïs aussi. Il y a eu des mariages entre eux, les jeunes sortent ensemble, vont au bal, à la vogue de Perrache, au cinéma. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'ambiance était bonne, comme on dit, et tout le monde se connaissait. J'ai connu cet endroit lorsque j'avais 17 ans. J'avais un ami qui habitait... Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.